Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir à nouveau Madame Laurence Goutard-Chamou pour achever une trilogie de l'anticorruption dans le secteur public. Madame Goutard-Chamou, bonjour.
Bonjour.
Madame Goutard-Chamou, vous êtes sous-directrice chargée du Conseil de l'analyse stratégique et des affaires internationales à l'Agence française anticorruption. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous la prévention de la corruption. Alors, commençons si vous le voulez bien. Madame Goutard-Chamou, que fait-on lorsqu'on est confronté à une atteinte ou une tentative d'atteinte à la probité ?
Alors peut-être préalablement un petit rappel pour nos auditeurs concernant les atteintes à la probité. Alors, les atteintes à la probité, c'est une facilité de langage. C'est pour éviter d'énumérer les 6 infractions pénales que sont la corruption, le trafic d'influence, le favoritisme, le détournement de fonds publics, la concussion et la prise illégale d'intérêts. J'en viens à présent à votre question qui appelle 2 niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est une réponse individuelle. En tant qu'agent, que dois-je faire ? Et à ce titre, il est important de rappeler que la probité est avant tout une affaire de comportement individuel. Et donc, je recommande à nos auditeurs d'apprendre à reconnaître ce que sont les atteintes à la probité. C'est le meilleur moyen de s'en prémunir. Le second niveau de réponse, c'est une réponse collective. En tant que collectivité territoriale, que peut-on faire pour se protéger et protéger ses agents ? Et là, la collectivité doit mettre en œuvre des dispositifs destinés à prévenir les atteintes à la probité.
Est-ce suffisant ?
Alors, savoir reconnaître les atteintes à la probité est une première étape seulement, mais c'est une étape essentielle, c'est une étape majeure. Lorsqu'on identifie une situation d'atteinte à la probité, l'AFA recommande de ne pas rester isolé et pour cela, il existe au moins 4 solutions. La première solution, vous pouvez informer votre hiérarchie directe lorsque celle-ci n'est pas en cause, évidemment. C'est la première étape, il faut informer sa hiérarchie ouvertement. C'est elle qui est en charge du bon fonctionnement du service, ce n'est pas vous. La deuxième solution, c'est lorsque pour des raisons évidentes, il n'est pas question de s'en ouvrir à sa hiérarchie, le référent déontologue est votre interlocuteur privilégié. Apporter un conseil, un éclairage déontologique est sa mission première. Je dois dire que cet ordre de priorité, en fait, qu'il n'en est pas un, hein, il n'est pas obligatoire. Il ne faut pas d'abord contacter sa hiérarchie et ensuite le référent déontologue. On peut très bien contacter le référent déontologue et ensuite sa hiérarchie. Donc, cela dépend de notre niveau de certitude et d'implication. Aussi, si on est certain des faits et de leur qualification, on peut en parler à son supérieur hiérarchique. Si on a quelques doutes, le référent déontologue peut alors nous aider. Si sa propre situation personnelle est en cause, on peut bien entendu préférer en parler d'abord à son référent déontologue. Vous voyez, tout cela n'est pas automatique.
A-t-on toujours un référent déontologue à disposition ?
Le dispositif a été créé par la loi du 20 avril 2016, qui crée un droit pour tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue. Et son déploiement dans la fonction publique a été obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Donc, le dispositif s'est mis en place progressivement. Les enquêtes statistiques menées par l'AFA concernant les collectivités territoriales, donc tant celles de 2018 et plus encore celles de 2021, montrent qu'il est relativement bien déployé, enfin que cette mesure est bien déployée au niveau local. Je saisis l'occasion ici pour rappeler que dans les collectivités employant moins de 350 agents, le référent déontologue est au centre de gestion. C'est une obligation. Donc, nos collègues n'ont pas à se poser la question de sa localisation. Il est au centre de gestion. Pour les autres collectivités, il est déployé par la collectivité elle-même en son sein.
Oui, effectivement, cette précision me semble importante. Souvent, le référent déontologue existe, mais on ne le sait pas nécessairement. Vous parliez de 4 possibilités. Nous en avons vu 2.
Oui, tout à fait. La troisième possibilité est d'utiliser le dispositif d'alerte interne. Je sais que nous allons entendre le défenseur des droits sur ce sujet, donc je n'en dirai pas plus à ce stade. Enfin, la quatrième possibilité, c'est ce que l'on appelle le signalement article 40, c'est-à-dire le signalement au procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale, donc qui prévoit une obligation pour tout agent public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, donc qui doit en faire le signalement au procureur de la République. Alors, attention tout de même, bien que cela ne soit pas une obligation incombant personnellement à l'agent territorial, cette obligation ne fait pas échec à l'obligation de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, et il est prudent de le faire donc en bonne harmonie avec sa hiérarchie.
Effectivement. Qu'est-ce qu'un doute raisonnable et sérieux sur l'existence d'une atteinte à la probité pour un agent territorial ?
Alors, le libellé, effectivement, de l'article 40 du Code de procédure pénale laisse entendre que l'agent doit avoir connaissance de crimes ou de délits. Donc, c'est toujours l'agent qui doit agir de bonne foi et donc de manière désintéressée. Et deuxièmement, il doit agir en fonction des éléments de connaissance et d'information dont il dispose. Je ne serai allé plus loin dans la définition, mais vous voyez bien que c'est une appréciation subjective qui est fonction de chaque personne. On sera d'autant plus exigeant pour un expert juridique qu'un agent technique qui fait un signalement.
Merci. Finalement, ces quatre possibilités sont assez logiques. 1. Le chef de service, parce qu'il est concerné principalement par le bon fonctionnement du service. 2. Le référent déontologue, il est détaché du bon fonctionnement du service, mais il peut vous aider. 3. Le canal de l'alerte interne, parce qu'un tel dispositif est prévu par la législation. 4. Signaler au procureur de la République conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale. Vous avez évoqué le dispositif de l'alerte interne et je vous remercie. Vous introduisez mon intervenant suivant. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Madame Constance Rivière, secrétaire générale chez le Défenseur des droits. Je l'ai interrogée, vous l'aurez deviné, à propos du lanceur d'alerte.
Madame Rivière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale chez le Défenseur des droits. Nous abordons aujourd'hui avec vous le sujet des lanceurs d'alerte internes dans le domaine des atteintes à la probité dans le secteur public local. Si vous le voulez bien, vous allez d'abord rappeler à ceux qui nous écoutent ce qu'est un lanceur d'alerte, tout particulièrement dans une collectivité locale.
Alors, il n'y a pas de spécificité pour les collectivités territoriales. Un lanceur d'alerte est un lanceur d'alerte et c'est l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, qui donne la définition du lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est une personne physique, par exemple un fonctionnaire territorial ou un agent public ou un contractuel, qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, par exemple un vol, des faits de corruption, une violation grave de la législation, par exemple l'absence de mise en concurrence dans une procédure de marché public, ou un préjudice grave contraire à l'intérêt général. Autre exemple, ça pourrait être la pollution d'une rivière. Une fois ces conditions remplies, l'auteur du signalement, pour bénéficier de la protection du régime des lanceurs d'alerte, devra remplir deux autres conditions. Première condition, il doit avoir respecté l'obligation de confidentialité qui porte sur l'ensemble des éléments du signalement. Deuxième condition, il doit respecter la procédure graduée en trois phases qui consiste, dans la majorité des cas, donc sauf urgence par exemple, à saisir d'abord le supérieur hiérarchique ou le référent qui a été désigné par la collectivité, puis en l'absence de réponse de sa part dans un délai raisonnable, l'autorité administrative ou juridictionnelle, qui peut faire cesser les faits. Enfin, c'est seulement en l'absence de réponse de cette autorité dans les trois mois qu'il peut rendre public les faits. J'ajoute que les plus grandes collectivités territoriales, les régions, les départements, ainsi que les communes de plus de 10 000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale ont l'obligation de formaliser dans un texte la procédure de signalement pour leur collectivité et d'en informer tous leurs agents.
Merci Madame Rivière. En vous écoutant, une question me vient à l'esprit. Que se passe-t-il lorsque ma collectivité n'a pas mis en œuvre le recueil des alertes, soit par omission, soit par absence d'obligation ? Exemple, le seuil des 10 000. Est-on automatiquement privé de la possibilité de lancer une alerte ?
Bien sûr que non. On peut toujours lancer une alerte, même si cette procédure n'a pas été mise en place par la collectivité. En revanche, si cette collectivité n'a pas mis en place de procédure, cela ne dispense pas la personne qui souhaite lancer une alerte de respecter la législation et donc les dispositions avec la procédure graduée à trois paliers et l'obligation de confidentialité que j'ai rappelée précédemment. On est donc d'accord que si vous souhaitez lancer une alerte dans une collectivité qui n'a pas mis en place la procédure, vous devez néanmoins vous tourner d'abord vers l'autorité hiérarchique de la collectivité avant de vous tourner vers une autorité externe, puis, le cas échéant, de rendre publique une alerte. Parallèlement, l'autorité hiérarchique de la collectivité, même en l'absence de procédure, a l'obligation de, par la loi, d'apporter une réponse dans un délai raisonnable au lanceur d'alerte.
D'accord. Parfois, on se sent bien seul face à une telle situation. Vers qui me tourner pour obtenir de l'aide ?
Alors, il faut pouvoir obtenir de l'aide et il faut pouvoir obtenir de l'information. Et évidemment, surtout dans une procédure très précises comme celle du lancement d'une alerte, il est extrêmement important de bien s'informer avant d'agir, notamment pour s'assurer que la personne pourra bénéficier du régime de protection des lanceurs d'alerte si elle subissait des représailles après avoir lancé son alerte. Ce type d'information, il peut se trouver par exemple sur le site de la collectivité ou sur le site du centre de gestion auquel elle est rattachée. Mais vous pouvez aussi trouver toutes ces informations sur le site du Défenseur des droits, sur lequel figure une page dédiée aux lanceurs d'alerte. Sur cette page se trouve notamment le guide de l'orientation et de la protection du lanceur d'alerte, ainsi que toutes les indications pour saisir le Défenseur des droits. En effet, à tout moment, une personne qui souhaite lancer une alerte peut saisir par écrit le Défenseur des droits d'une demande d'orientation, des conseils sur la qualité de lanceur d'alerte, sur la procédure à suivre, sur l'autorité à saisir. Et une personne qui a lancé une alerte peut à tout moment saisir le Défenseur des droits pour demander une protection contre les représailles qu'il pense avoir subies en réponse à l'alerte qu'il a lancée. Je rappelle à cet égard qu'il est interdit par la loi de sanctionner un lanceur d'alerte de représailles directes, sanctions ou licenciements, ou indirectes, par exemple un refus de promotion, pour avoir effectué un signalement, quand bien même les faits signalés ne s'avéreraient pas exacts. La seule condition, c'est que la personne, au moment où elle lance son alerte, est de bonne foi. Extrêmement important. Et si l'enquête diligentée par le Défenseur des droits auprès de la collectivité démontre l'existence de représailles dont est victime le lanceur d'alerte à la suite de son signalement, le Défenseur des droits mobilisera l'ensemble de ses pouvoirs pour rétablir cette personne dans ses droits.
Madame Rivière, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes secrétaire générale chez le Défenseur des droits. Au revoir.
Merci beaucoup à vous.
Nous venons d'entendre Constance Rivière. Ce dispositif d'alerte interne est assez récent. Savez-vous, d'après l'enquête statistique 2021 que vous venez de mener, s'il est bien déployé dans le secteur public local ?
Effectivement, dans l'enquête qu'a conduite l'AFA sur le secteur public local, nous avons posé la question, aussi bien en 2018 qu'en 2021, sur l'existence d'un dispositif d'alerte. Force est de constater que le déploiement du dispositif d'alerte interne n'est pas encore complètement satisfaisant, même si, et il faut le souligner tout de même, il est en progression. Toute entité publique locale confondue, 4,9% des entités répondantes déclaraient avoir un tel dispositif en 2018, tandis qu'elles sont maintenant à 19,3%.
Oui, tout de même, il y a un progrès, puisqu'on passe de 4,9% à 19,3%. Changement de sujet, nous avons évoqué le référent déontologue. Je vous avoue que la différence entre déontologie, moralité, éthique professionnelle, probité, honnêteté n'est pas de toute évidence pour moi. J'ai eu l'occasion d'interroger M. Christian Vigouroux, éminent spécialiste de ces questions. Je vous propose de l'écouter.
Monsieur Vigouroux, bonjour. Vous êtes un haut fonctionnaire français, conseiller d'État honoraire, enseignant à l'université et éminent spécialiste de la déontologie dans la fonction publique. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la déontologie dans la fonction publique territoriale. Et à ce propos, j'aurai quelques questions à vous poser pour éclairer nos auditeurs et auditrices sur ce sujet. Si vous le voulez bien, pourriez-vous rappeler à celles et ceux qui nous écoutent ce qu'est la déontologie ? Est-ce une question de probité personnelle ou collective ? Répond-elle à des normes ?
La déontologie, c'est un vieux réflexe qui fait qu'on peut avoir confiance dans le fonctionnaire. Le fonctionnaire territorial, il est encore plus proche des citoyens que les fonctionnaires d'État ou autant que les fonctionnaires hospitaliers. Et donc, le citoyen, quand il s'adresse à un fonctionnaire, attend un certain nombre de comportements sans lesquels il est dérouté et devient hostile ou désemparé. Je résume la déontologie qui est comme l'art d'avoir un comportement adapté, approprié aux fonctions que l'on a. Un enseignant doit respecter les enfants. Un policier doit utiliser la force strictement proportionnée et ne pas en abuser. Un inspecteur des impôts ne doit pas remuer sur le grill la personne inutilement. Il doit obtenir qu'elle paye ses impôts. Un employé d'un service social doit ne poser les questions aux personnes que celles qu'il doit poser et pas s'ingérer dans la vie privée. Et donc pour moi, la déontologie, c'est deux choses. De manière générale, c'est l'art de se poser les questions avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire ne pas prendre des comportements comme banals parce qu'ils ont toujours eu lieu, non. Il faut se poser la question. Je peux illustrer ça par un arrêt du Conseil d'État, si nous avons le temps.
Oui, bien sûr.
Si je dis ça, l'art de se poser les questions avant qu'il soit trop tard, c'est un vieil arrêt du Conseil d'État de 1993 pour un policier qui se faisait offrir par un de ses collègues du matériel électronique à quart de prix. Et évidemment, l'origine du matériel n'était pas tout à fait nette, et il a été sanctionné pour ne pas s'être posé la question « J'achète du matériel à mon collègue à bas prix, c'est tant mieux, mais d'où vient-il » Donc, l'art de se poser des questions. Et c'est la probité, c'est-à-dire le rapport à l'argent. Le fonctionnaire ne s'achète pas, est payé par la collectivité territoriale pour la fonction publique territoriale, et pas par l'usager. Deuxièmement, l'impartialité. On traite l'usager de manière égale, qu'il soit puissant ou misérable, de droite ou de gauche, français ou étranger. On le traite au regard de la loi et pas selon ses propres sentiments. Et troisièmement, il ne faut pas l'oublier, l'efficacité. Le fonctionnaire a un devoir d'efficacité.
Effectivement. Merci M. Vigouroux. En vous écoutant, une question me vient à l'esprit. Parle-t-on de probité ou de déontologie? Est-ce la même chose? La déontologie se limite-t-elle à des atteintes à la probité?
Alors, votre question m'intéresse. Je termine par la fin, parce que la déontologie n'est pas l'art de traiter les manquements. C'est l'art de les éviter. Pour traiter les manquements, il y a la discipline. Et pour moi, la déontologie, c'est quelque chose de fort, dont on peut être fier, qui doit éviter la discipline. Je ne souhaite pas une administration qui multiplie les sanctions. Par contre, je souhaite, comme usager, être bien accueilli, être traité comme un citoyen, ni plus ni moins. Et donc, la déontologie, c'est cet art multiple de susciter la confiance chez l'usager et ne pas abuser de sa position. Alors, ça comprend plusieurs principes, dont la probité, mais pas la probité seulement. Je vous ai dit l'impartialité, je peux l'illustrer, c'est-à-dire que ne pas susciter de doute en pensant que, regardez, on est tous passés par l'école, on voyait bien que le professeur avait quelquefois des chouchous. Et bien, dans l'administration, on n'a pas de chouchous. On traite fiscalement, juridiquement, économiquement, les usagers en fonction des catégories créées par la loi. Probité, impartialité, obéissance intelligente et résistance à l'ordre illégal si on vous demande de faire quelque chose de scandaleux, discrétion et secret. Donc la déontologie comprend pour tous les fonctionnaires plusieurs rubriques ou plusieurs principes. La probité en est un, mais la déontologie ne se résume pas à la probité. Elle comprend d'autres choses.
Effectivement, ça m'appelle à une autre question. Peut-on être intègre dans un environnement professionnel peu propice à la probité? Et ensuite, l'exemplarité de la hiérarchie est-elle importante en matière de déontologie?
Alors, je commence par votre deuxième question, parce que elle brûle tout fonctionnaire digne de la confiance qu'on lui porte. Si on prend une responsabilité, on devient entraîneur d'un service, pas coach, mais on doit susciter l'adhésion et mener le service vers le projet qui a été fixé par l'autorité politique. Ça vaut spécialement, évidemment, pour la fonction publique territoriale. Et donc, l'exemplarité est absolument consubstantielle à la déontologie. Je prends par exemple le code de déontologie pris par décret pour la police et la gendarmerie, qui ont un code de déontologie commun. Il y a un chapitre sur la responsabilité de la hiérarchie. C'est pour ça que c'est un code très intéressant. On ne peut pas demander à l'agent de ne pas taper dans la caisse s'il voit que le responsable a des liens suspects avec les grandes entreprises, double la surface de sa maison tous les deux ans avec du matériel ou du matériau ou des personnels publics. Voilà. Quand j'étais gamin, il y avait une maison qui était belle dans le village. On appelait ça la maison du DDE parce qu'il y avait un camion sur 10 qui... Vous voyez, j'avais pas besoin d'avoir fait des études de déontologie pour comprendre que le fonctionnaire, il prend pas un camion sur 10.
Effectivement. Monsieur Vigouroux, notre émission touche à sa fin. En vous écoutant, une dernière question me vient à l'esprit. C'est la suivante. La déontologie est-elle évolutive selon les époques? Et comment voyez-vous l'évolution de la déontologie dans le futur?
Alors, je conseille à nos lecteurs de lire le livre du professeur d'université à la Sorbonne, je crois, Bruno Dumézil, qui s'intitule « Servir l'État barbare dans la Gaule franque, du 4e au 9e siècle ». C'est un livre tout à fait passionnant sur la pratique des fonctionnaires francs du début du royaume, du début de la France, avec les premières règles déontologiques. Et sinon, je leur conseille aussi de lire l'ordonnance de 1303 de Louis IX, plutôt Saint-Louis, ou comme vous voulez, qui a fait une ordonnance sur la réformation du royaume, un texte sur la réforme de l'État, en quelque sorte, où vous trouvez tout. Vous trouvez l'intégrité, vous trouvez l'impartialité, vous trouvez la nécessité, c'est très intéressant pour les fonctionnaires territoriaux, de prendre un peu de distance par rapport à leur propre origine. Si vous êtes comme moi de l'Aveyron, ben vous faites attention de ne pas traiter les Aveyronnais mieux que les Tarnais. Bon. Et donc, le principe du fait que quand on sert une collectivité publique, comme la fonction publique territoriale, mais ça vaut aussi des autres fonctionnaires, eh bien, on a des devoirs particuliers. C'est aussi ancien que l'existence même de serviteurs de l'État. Et donc, il y a une constante sur ces grands principes, intégrité, impartialité, obéissance, intelligente, respect du secret et de la discrétion. Mais évidemment, c'est évolutif. Et un seul exemple, il y a ce qu'on appelle l'obligation de réserve dans les obligations déontologiques. Le fonctionnaire ne va pas déblatérer sur son service, critiquer ses chefs publiquement, etc. Et surtout pas dénigrer le service. Il y a des fonctionnaires qui disent, prends autre chose que la fonction publique territoriale, les hôpitaux. Ah, ne venez pas dans mon hôpital, le taux de mortalité est supérieur. Il y a un problème. Pas aux fonctionnaires de... Si c'est vrai, il faut réformer l'hôpital. Et si c'est pas vrai, c'est une grosse faute. Donc, il faut faire attention. Et à votre question, est-ce que c'est évolutif ? Ben, les réseaux sociaux, par exemple, ont transformé la question de l'obligation de réserve. Avant, c'était, quand j'étais jeune fonctionnaire, c'était assez facile, obligation de réserve. On ne faisait pas de grandes interviews dans le journal pour critiquer ses chefs. Dans les réseaux sociaux, les gens se confient. Et donc, plusieurs ministères ont fait des travaux sur réseaux sociaux et déontologie, et ils ont abouti à dire, quand vous écrivez, quand vous envoyez un message sur les réseaux sociaux, mettez-vous dans la tête que tout le monde, y compris vos chefs, va le lire, même si apparemment c'est un réseau réservé. Voilà un exemple où la technologie a profondément modifié la manière de se poser la question avant qu'il ne soit trop tard.
Effectivement, il y a des précautions à prendre. Monsieur Vigouroux, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes un haut fonctionnaire, conseiller d'État honoraire, enseignant à l'université et éminent spécialiste de la déontologie dans la fonction publique. Au revoir.
Merci.
Nous venons d'entendre Monsieur Christian Vigouroux sur les différentes notions qui tournent autour de la probité. Nous avons évoqué la situation d'un agent confronté à une situation d'atteinte à la probité. La question que je me pose est celle de la collectivité elle-même. Que fait-elle ? Que doit-elle faire ? La lutte contre la corruption est-elle seulement une affaire individuelle ? L'AFA a publié des recommandations, notamment dans le secteur public local. J'ai interrogé M. Charles Duchesne, directeur de l'AFA, sur les dispositifs anticorruption dans le secteur public local. Écoutons-le si vous voulez bien. Monsieur Duchesne, bonjour.
Bonjour monsieur.
Je rappelle que vous êtes magistrat et directeur de l'Agence française anticorruption. Votre agence est née avec la loi Sapin 2. En termes d'anticorruption, quel est l'apport de la loi Sapin 2?
Alors, l'apport essentiel de cette loi, c'est qu'elle a créé une obligation nouvelle, à la fois pour les très grandes entreprises et pour l'ensemble des collectivités publiques, pour les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements, etc. Elle a créé une obligation de conformité anticorruption qui est quand même ce qui singularise le système français, puisque nous sommes un des seuls pays où il existe une obligation de conformité anticorruption, en dehors même de tout contexte de suspicion ou de poursuite d'un tel délit. Créant cette obligation, la loi a créé l'agence chargée par ses missions de conseil et par ses missions de contrôle d'aider donc les acteurs assujettis à cette nouvelle obligation à mettre en place des dispositifs de prévention, évidemment à contrôler la mise en place effective.
Ce référentiel s'applique-t-il aux services publics locaux ?
Alors en effet, vous avez raison de poser cette question parce que la loi, article 17 de la loi, prévoit que ce référentiel s'applique aux grandes entreprises privées ou publiques, ce qu'on appelle les acteurs économiques, qui ont au moins 500 salariés et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la loi n'a pas prévu de dispositif particulier pour les acteurs publics, mais dans la pratique, nous avons développé un référentiel qui s'inspire très largement de l'article 17, tout en l'adaptant aux spécificités du service public local, et j'allais dire aux nombreuses spécificités du service public local, puisqu'il y a, vous le savez, une multitude de collectivités différentes ou d'établissements différents, et les évolutions législatives, en tout cas les débats les plus récents, tendent à démontrer que nous avons eu raison de faire cette adaptation, puisque un rapport parlementaire récent d'évaluation de la loi du 9 décembre 2016 et de l'action de l'agence, propose lui-même la création de ce type de référentiel.
L'AFA a publié des recommandations. Quelle différence existe-t-il entre ce référentiel et les recommandations ?
Alors, le référentiel, on appelle référentiel l'ensemble des normes, j'allais dire du corpus, qui s'applique aux entreprises ou aux acteurs publics. C'est-à-dire à la fois les dispositions de la loi, nos recommandations, les guides, les fiches techniques, tous les éléments que nous pourrions publier, c'est l'ensemble du corpus applicable. Les recommandations, elles, qui sont publiées au journal officiel, sont simplement, j'allais dire, un mode d'emploi de la loi, c'est-à-dire que nous développons le contenu de la loi de façon à donner, par des exemples pratiques, par des illustrations, aux entreprises ou aux collectivités, la manière dont cette loi doit être ou peut être mise en œuvre, puisque ces recommandations n'ont pas de caractère obligatoire.
Donc, si je vous ai bien compris, hein, d'une certaine manière, la loi nous dit l'objectif et les recommandations précisent la méthode pour y arriver.
Les recommandations précisent la méthode que nous préconisons, en effet, pour parvenir aux fins, aux objectifs prévus par la loi. Il s'agit d'une méthode, évidemment, qui est réfléchie, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons, j'allais dire, couchée dans nos recommandations, mais les acteurs peuvent envisager d'autres méthodes dès lors qu'ils parviennent aux mêmes fins.
En quelques mots, que peut-on dire d'un dispositif anticorruption propre au service public local?
C'est un dispositif qui est adapté aux spécificités du service public local, qui tienne compte de ses missions, de ses métiers propres, et qui tiennent compte de ses moyens, parce qu'il n'est pas question évidemment d'imposer à une petite commune même les mêmes contraintes qu'à une région. Et puis, c'est ce qu'on qualifie de proportionnalité. Et puis la proportionnalité, c'est pas simplement aux moyens matériels et humains et financiers, c'est aussi et surtout une proportionnalité au risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon dispositif si ce dispositif n'est pas calé sur une bonne analyse préalable du risque.
Et donc, sur le contenu du dispositif, que peut-on dire plus précisément?
Le contenu du dispositif, il est grosso modo celui qui est proposé par l'article 17 pour les grandes entreprises, avec évidemment des atténuations. L'évaluation des tiers ne se fait pas de la même façon, puisque en termes de marché public, on ne peut pas écarter un candidat au seul motif que l'évaluation ne serait pas très favorable. Ça peut se traduire de la même façon par un contrôle et une surveillance plus rapproché, j'allais dire, de l'exécution du marché. Après, pour le reste, si vous voulez, et je crois que on n'inventera rien de mieux, quand on veut faire une approche par les risques, eh bien, il convient d'identifier ces risques, c'est-à-dire d'analyser toutes les activités, tous les métiers, tous les processus de la collectivité, de façon à toute étape et à tout stade du processus, analyser les risques, essayer de voir quelles sont les mesures qui permettraient de les atténuer. À partir de là, eh bien, on hiérarchise ces risques pour savoir quels sont ceux qu'il faut traiter par priorité, et puis eh bien, on fait de la formation, on forme les élus, on forme les fonctionnaires, on met en place, mais c'est prévu par la loi, dès avant la loi du 9 décembre 2016, un système d'alerte interne qui permet d'alerter l'exécutif sur les éventuels problèmes qui pourraient se produire, les éventuels délits ou même soupçons ou difficultés qui pourraient se produire, on met en place du contrôle interne. On n'a rien inventé, si vous voulez. Simplement, cette procédure donne une cohérence globale à la fois aux règles de déontologie, aux règles applicables en matière de passation des marchés publics. On donne une cohérence globale à tout ça. La loi, finalement, pose un système de prévention qui est plus global.
J'ai l'impression que c'est compliqué ou je me trompe?
Je dirais plutôt que ça fait peur. Je suis pas sûr que ça soit si compliqué que ça, parce que il faut commencer par le début et donc il faut identifier ces risques. C'est pas la peine de mettre en place des procédures de formation. Alors, la procédure d'alerte interne, si, on peut sans doute la mettre en place, et puis la loi l'impose. Mais c'est pas la peine de mettre en place du contrôle interne si on n'a pas identifié ces risques, parce que sinon, on n'aura pas les points de contrôle appropriés, si vous voulez. Mais je crois surtout que ça fait peur, et c'est la terminologie qui fait peur, parce que c'est un peu nouveau. Donc, quand on dit à une commune, il faut faire une cartographie des risques, bon, ça peut faire un peu peur. Quand on explique plus concrètement qu'il s'agit de regarder comment marche la commande publique, comment marche l'octroi de subventions, comment vous êtes organisé à cet égard, qui fait quoi, est-ce que c'est le même qui fait tout, ou est-ce qu'il y a de temps en temps une ségrégation des tâches qui fait que l'un tout seul ne peut pas détourner de l'argent parce qu'il va être contrôlé par son collègue, et puis surtout, formaliser les procédures, formaliser, garder des traces, parce que nous sommes très attentifs à ce qu'on appelle, c'est du mauvais français, mais l'auditabilité des procédures. Et s'il n'y a pas de traces, on peut rien auditer et donc on peut considérer que ça n'a pas été fait. Pas forcément vrai d'ailleurs.
Monsieur Duchesne, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes magistrat et directeur de l'Agence française anticorruption, chargé entre autres du Conseil aux administrations publiques. Au revoir.
Merci monsieur, au revoir.
De retour sur le plateau, si je comprends bien, les recommandations sont à la fois une méthodologie et un ensemble de principes à appliquer. Ça se passe comment concrètement dans une collectivité territoriale ?
Alors, les recommandations de l'AFA sont, comme vous le dites, une notice explicative, un mode opératoire pour aider l'ensemble des organisations à mettre en œuvre un dispositif de lutte contre la corruption. Alors, nos recommandations, elles sont structurées en trois parties. La première partie, elle est commune à tous les acteurs, quel que soit leur seuil, quel que soit des acteurs privés, des acteurs publics, peu importe. La partie 2, elle est propre aux acteurs privés, qu'on dit les acteurs publics assujettis, c'est-à-dire les grandes entreprises de plus de 500 salariés et de plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Et enfin, on a élaboré une troisième partie qui est spécifique aux acteurs publics. Donc si vous êtes une collectivité locale, il s'agit de se reporter aux parties 1 et aux parties 3 de nos recommandations. L'AFA, plus globalement, distingue trois types de mesures en fait, pour essayer de protéger une collectivité territoriale. Premièrement, une collectivité locale, elle est chargée de mettre en œuvre l'ensemble de la réglementation qui concourt à renforcer la probité des agents publics dans l'exercice de leur mission. Deuxièmement, les collectivités, elles peuvent et elles sont fortement incitées à mettre en œuvre un dispositif anticorruption adapté à leurs moyens et proportionné, bien entendu, aux risques auxquels elles sont exposées. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, un dispositif loi Sapin 2. Et troisièmement, à côté des textes réglementaires, à côté des dispositifs anticorruption, il y a ce que l'on appelle les bonnes pratiques, c'est-à-dire des actions qui sont non réglementées, qui sont du droit mou, du droit souple, mais qui concourent à la réduction des risques. Donc lorsque vous mettez en œuvre ces trois catégories de mesures, vous obtenez un dispositif anticorruption efficace.
Merci. Vous avez évoqué en premier lieu la réglementation hors Sapin 2. Monsieur Olivier Salvador, bonjour. Vous êtes en charge du secteur public local à l'AFA. Sans doute, pouvez-vous m'aider à comprendre quelle différence fait-on entre un dispositif anticorruption au sens de la loi Sapin 2 et les procédures hors Sapin 2 qui concourent à la probité ?
Bonjour. Naturellement, un dispositif anticorruption au sens de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, fait référence aux mesures que l'AFA recommande aux acteurs publics de mettre en œuvre pour obtenir un dispositif anticorruption efficace et effectif. Ces mesures ont été abordées par le directeur de l'AFA, que nous venons d'entendre d'ailleurs, et vont être détaillées un peu plus tard dans l'émission, je ne m'y attarde donc pas. A l'évidence, dans le cas du secteur public, il existe aussi, et d'ores et déjà, toute une série d'autres obligations ou dispositifs pour certains antérieurs à l'adoption de la loi du 9 décembre 2016, qui concourent à la probité. Il faut donc les valoriser dans le cadre d'un dispositif anticorruption. Par exemple, il me vient à l'esprit le référent déontologue. Celui-ci n'est pas cité dans la description d'un dispositif anticorruption standard, mais il est amené à jouer un rôle fondamental en assistant les personnes pour leur bonne compréhension des situations, des notions juridiques ou éthiques applicables. Sa mission peut être valorisée dans le cadre d'un dispositif anticorruption. Par exemple, il aide les personnels à identifier les infractions, il apporte un conseil déontologique.
Merci. Je fais bien la différence maintenant entre un dispositif type qui s'applique à tous les acteurs publics assujettis, ce que vous appelez dispositif recommandé par l'AFA au titre de la loi Sapin 2, et un dispositif anticorruption propre au secteur public local qui s'appuie sur des obligations légales et réglementaires allant plus loin que les seules mesures de gestion des risques que vous avez présentées. A-t-on une idée plus précise de ces obligations légales et réglementaires ? Sont-elles recensées quelque part ?
Alors, elles ne sont pas recensées, mais ces dispositifs sont bien identifiés et il existe des seuils d'éligibilité, notamment en termes de nombre d'habitants de la collectivité territoriale que l'on considère. Il faut donc faire un travail de recensement pour déterminer si ces dispositifs s'appliquent au cas particulier à votre collectivité. Globalement, on peut les classer en quatre grandes catégories. Premier bloc, j'ai envie de dire un bloc de déontologie. Alors, je ne reviens pas sur le référent déontologue. On peut ranger dans ce bloc les obligations de déport. Derrière ce terme est visé le fait que lorsqu'un agent public estime être en situation de conflit d'intérêts, il doit spontanément le déclarer à son supérieur hiérarchique et mettre fin ainsi à cette situation. Les instructions de ce dernier devront toujours conduire, en cas de conflit d'intérêts dans le traitement d'un dossier ou d'une procédure, à écarter l'agent de son traitement. C'est ce qu'on appelle le déport. Il faut savoir se déporter d'un dossier. Deuxième bloc, un bloc de prévention des conflits d'intérêts. On peut y ranger, par exemple, le contrôle des mobilités professionnelles publiques-privées, les déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale, ou la réglementation relative aux emplois familiaux dans les cabinets. Pour revenir sur le contrôle des mobilités, c'est ce qu'on appelle familièrement le contrôle du pantouflage. L'autorité hiérarchique en premier lieu et le référent déontologue, encore lui, éventuellement, appuyé par la HATVP, joue un rôle de contrôle renforcé depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ainsi, quand on est un agent public, on ne part pas dans le secteur privé sans observer un minimum de précautions relatives à la compatibilité entre les fonctions exercées au cours des 3 dernières années et les nouvelles fonctions que vous envisagez. Il en va de même dans le cas d'un recrutement d'un agent public en provenance du secteur privé.
Ouais. Il n'y avait pas une commission de déontologie de la fonction publique ?
Oui, vous avez raison, hein, mais elle a été supprimée par la loi du 6 août 2019 que j'évoquais, et elle a été remplacée par ce contrôle-là que j'évoquais, un contrôle exercé soit par le supérieur hiérarchique, soit par le référent déontologue, soit par la HATVP, en fonction des cas. Mais la commission elle-même a bien été supprimée. S'agissant des déclarations d'intérêt et des situations patrimoniales, elles sont strictement limitées par la loi aux titulaires de certains emplois territoriaux et les élus locaux. Elles permettent d'établir avant l'incident la liste des intérêts d'un agent public et de l'écarter ainsi du traitement de certains dossiers.
Si je comprends bien, il s'agit d'une obligation individuelle. Quel est l'intérêt pour une collectivité territoriale de s'y intéresser ?
Alors, c'est assez simple, hein. Lorsqu'une collectivité organise, ne serait-ce qu'en rappelant leurs obligations aux agents et aux élus visés par ce dispositif de déclaration, d'une certaine manière, elle prévient les atteintes à la probité et cela peut se valoriser tout à fait dans un dispositif anticorruption. Enfin, la réglementation sur les emplois familiaux dans les cabinets vise à prévenir les situations d'emploi de complaisance, dirons-nous.
Faites-vous allusion aux emplois fictifs ?
Pas nécessairement, attention, mais bon, vous voyez bien que cela peut être propice à des situations un peu anormales. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le législateur a entendu réglementer les emplois dans les cabinets.
Si je compte bien, nous avons 2 blocs à ce stade.
Mais vous comptez bien, nous avons effectivement un 3e bloc. Il est relatif à la détection des manquements. Et dans ce bloc, nous rangeons le recueil des alertes et l'article 40 du Code de procédure pénale. Alors, le recueil des alertes, c'est quoi ? Il s'agit de la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte ou de tout autre dispositif permettant la remontée d'informations à la hiérarchie. Je pense en particulier à la procédure relative au signalement des conflits d'intérêts dans la fonction publique. Nous avons également l'article 40, l'alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il prévoit que toute autorité constituée, donc tout, y compris tout fonctionnaire territorial, hein, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Enfin, il existe un 4e bloc relatif à la transparence des données. Alors, l'ouverture des données publiques, elle est prévue par la loi du 7 octobre 2016, c'est la loi dite pour une république numérique, et elle comprend des mesures sur l'ouverture des données publiques. Enfin, nous avons le référent de la commission CADA, c'est une personne chargée de faciliter la communication des données communicables individuellement dans les collectivités territoriales. Théoriquement, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants ont l'obligation de nommer un référent CADA.
Ouais, c'est très vaste. Pouvez-vous préciser ce point ? Par exemple, que vient faire l'ouverture des données publiques et en quoi cela s'insère dans un dispositif anticorruption ?
Oui, bien sûr. L'ouverture des données publiques a 2 implications. Alors, premièrement, elle donne à voir ce qui est fait et permet ainsi aux citoyens de s'interroger et d'interroger éventuellement l'administration sur sa gestion. J'ai envie de dire que c'est un peu le contrôle externe citoyen. Deuxièmement, elle signifie aux agents et aux élus d'ailleurs que leur gestion pourra, plus qu'avant, être questionnée tant par les institutions de contrôle, Chambre régionale des comptes par exemple, que par les simples citoyens ou associations. Elle favorise ainsi une forme de contrôle externe citoyen et institutionnel. Dans ces conditions, chacun est amené à agir avec plus de rigueur, vous le comprenez.
Comment valorise-t-on cela dans un dispositif anticorruption ?
C'est la bonne question. Alors, on peut organiser l'ouverture des données en précisant naturellement quelles données sont concernées et la traçabilité des interventions. On sait qui a fait quoi sur quel dossier. On facilite la consultation de ces données par les citoyens. Par exemple, comment accéder simplement et gratuitement aux données publiques ? Qu'est-ce qu'il faut consulter ? Comment comparer ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux interroger mon administration ? On organise les canaux par lesquels les citoyens peuvent interroger l'administration. Vous voyez qu'ainsi, on peut utiliser un dispositif prévoyant simplement l'ouverture des données pour en faire un instrument de transparence et de prévention de la corruption.
Oui, je comprends mieux maintenant. Monsieur Salvador, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Si je comprends bien, il faut recenser un certain nombre de dispositifs qui, une fois mis en œuvre, concourent à un dispositif anticorruption. Le 2e volet est un dispositif issu de la loi Sapin 2 et des recommandations de l'AFA. En quoi consiste-t-il ?
Alors, les recommandations de l'AFA, qui découlent en fait de la loi Sapin 2, définissent les composantes et l'articulation d'un dispositif anticorruption. Ces recommandations, elles reposent bien entendu sur les mesures qui sont prévues dans l'article 17 de cette loi. Donc les recommandations n'invente rien, elle propose juste un chemin qui est destiné à aider les collectivités locales à mettre en œuvre un dispositif de lutte contre la corruption. Plus exactement, un dispositif destiné à prévenir et à détecter les atteintes à la probité. Alors, quel est ce schéma qui est proposé? Ce schéma, il repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est d'une part l'engagement de l'instance dirigeante. On attend un comportement exemplaire de l'instance dirigeante et également une volonté marquée en faveur du déploiement de mesures et de procédures destinées à prévenir et à détecter les faits de corruption. Cela passe par l'allocation de moyens humains et financiers, un positionnement adéquat pour les services chargés de cette démarche, et puis, bien entendu, par une politique de tolérance zéro face aux atteintes à la probité. Ça veut dire savoir prendre aussi des mesures disciplinaires. Le deuxième pilier, c'est la cartographie des risques d'atteinte à la probité. Une cartographie des risques, c'est d'une part recenser les scénarios de risque, c'est ensuite évaluer en termes de probabilité et d'impact potentiel pour les hiérarchiser. Troisièmement, c'est adopter ou adapter les procédures et plans d'action afin de traiter ces risques. Cette étape de cartographie, c'est une étape indispensable. D'ailleurs, on indique que c'est la pierre angulaire du dispositif anticorruption.
Oui. Dit comme cela, cela fait un langage de technocrate. Est-il réaliste s'agissant par exemple de petites communes ?
Peut-être qu'en effet la démarche peut sembler ambitieuse pour de petites structures, mais en réalité, dans les petites communes, on peut partir de processus dissensibles. D'ailleurs, c'est ce que l'on indique dans les recommandations de l'agence, il y a une annexe spécifique, et on peut partir particulièrement de ces processus qui sont exposés au risque d'atteinte à la probité. On en a identifié trois, la commande publique, la gestion des ressources humaines et le versement des subventions. Ainsi, on peut commencer par élaborer sa cartographie à partir de ces trois processus sensibles. Gardons également à l'esprit que, par contraste, si une structure de grande taille peut sembler mieux à même de mener un tel exercice, elle est aussi confrontée à certaines difficultés induites par sa taille et sa complexité, grand nombre de procédures et de services, coordination de la méthode de cartographie plus complexe, etc. Troisième pilier, comme je vous disais, il y a trois piliers dans un dispositif de prévention de la corruption, c'est on met en œuvre un certain nombre de mesures de gestion des risques qui sont identifiés dans la cartographie. Ce qu'il faut bien comprendre est que ces mesures de gestion des risques découlent dans tous les cas de nos deux prérequis fondamentaux évoqués plus haut, à savoir l'engagement de l'instance dirigeante et d'autre part la cartographie des risques. De cette carte des risques vont donc découler trois ensembles de mesures de gestion. D'une part, les mesures de prévention, c'est-à-dire l'édiction d'un code de conduite, la formation et la sensibilisation des personnels au risque d'atteinte à la probité et aux dispositifs mis en place pour les prévenir et les détecter. Et troisièmement, l'évaluation de l'intégrité des tiers avec lesquels l'entité est amenée dans la conduite de ses missions et activités à entrer en relation. Deuxième niveau de mesure sont les mesures de détection, à savoir un dispositif de contrôle interne et puis un dispositif d'alerte interne. Et enfin, troisième niveau de mesure sont les mesures de remédiation en cas de réalisation des risques. Donc c'est là. Révision systématique et périodique de l'évaluation des risques et des mesures de gestion mises en place, de manière à les adapter à l'expérience de l'organisation. Et puis enfin, un dispositif de sanctions disciplinaires efficace et conforme naturellement aux droits disciplinaires applicables aux agents publics, fonctionnaires ou contractuels. Commençons par les trois mesures de prévention. Tout d'abord, il s'agit d'établir un code de conduite anticorruption destiné à l'ensemble des agents qui est opposable, dans lequel on définit, on illustre, à travers des exemples d'activités de l'acteur public, les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de constituer des atteintes à la probité. Ce code de conduite présente des règles de comportement à adopter et à proscrire dans des situations contraintes, mais il apporte aussi des informations sur les solutions et les aides disponibles. Ce code de conduite, il est très illustré, il doit être très accessible et il doit être très lisible pour l'ensemble des agents. Par exemple, le code de conduite peut comporter utilement les règles en matière de cadeaux et invitations, mais il informe aussi que chaque agent ou élu dispose de la possibilité d'interroger un référent déontologue pour l'aider à déterminer la meilleure conduite à suivre face à telle ou telle situation à risque. L'agent n'est plus seul, il a un corps de règles, des recours et des ressources à sa disposition. Deuxième mesure concernant la prévention, c'est les actions de sensibilisation et de formation. On sensibilise l'ensemble des agents et des élus. Ils sont ainsi en mesure de reconnaître les atteintes à la probité pour mieux gérer les situations à risque. La formation, quant à elle, se distingue de la simple sensibilisation en ce qu'elle est ciblée sur les personnes que leur mission, leur fonction ou leur mandat exposent plus particulièrement au risque de corruption. Elle est aussi par conséquent plus approfondie et soutenue. En cela, la cartographie des risques aide à déterminer qui doit être plus spécialement formé et qui peut simplement faire l'objet d'une sensibilisation. Troisième mesure de ce dispositif de prévention, c'est l'évaluation de l'intégrité des tiers avec lesquels la collectivité entre en relation à divers titres. Alors, qui sont ces tiers? Ça peut être des fournisseurs, des bénéficiaires de subventions ou d'autorisations, des usagers. Alors pourquoi on évalue les tiers? En premier lieu parce que cela permet à l'acteur public d'apprécier des situations individuelles, ce que ne permet pas la cartographie des risques. Et en deuxième lieu, pour être en mesure de décider d'entrer en relation avec un tiers, de poursuivre une relation en cours, le cas échéant avec des mesures de vigilance renforcées ou d'y mettre fin. Donc ça, c'est la raison pour laquelle l'évaluation des tiers est importante. En effet, même si l'on a formé les agents, adopté un code de conduite et défini un plan d'action, ce travail interne sur les procédures doit être complété par une évaluation du risque individuel de corruption que pourrait susciter la relation avec des tiers extérieurs à la collectivité. Ils peuvent en fait exposer la collectivité.
Ouais, tout cela est logique. Vos trois premières mesures forment donc un ensemble prévention, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait. On prévient par ces trois mesures le risque d'atteinte à la probité. Ensuite, on arrive à la phase dite de détection. Il s'agit de se doter de moyens de détecter les atteintes à la probité avec deux mesures phares, l'alerte interne et le contrôle. L'alerte interne permet de porter à la connaissance d'un référent dédié un comportement ou une situation potentiellement contraire au code de conduite ou susceptible de constituer des atteintes à la probité. Cette remontée d'informations sur une telle situation est nécessaire afin que la collectivité prenne les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire y mettre fin ou prenne les sanctions appropriées le cas échéant. Deuxième mesure, c'est le contrôle interne. C'est un processus articulé en plusieurs niveaux. Cela va de l'autocontrôle à l'audit interne en passant par le contrôle hiérarchique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le contrôle interne, il permet à une collectivité de s'assurer que les missions ont été effectuées conformément aux procédures et aux finalités édictées. En résumé, il convient pour une collectivité d'examiner régulièrement le fonctionnement de ses services et la conduite de ses missions afin de déterminer si les procédures sont respectées et efficaces pour prévenir le risque d'atteinte à la probité. Donc après la prévention, après la détection, on arrive maintenant aux mesures dites de remédiation. Ce sont les mesures correctives qui permettent, après la remontée d'informations, après l'expérience, après les contrôles, d'ajuster éventuellement la carte des risques, les procédures et les plans d'action. En clair, les manquements liés à la mise en œuvre des procédures. Parce que ce que je n'ai peut-être pas dit, mais un dispositif anticorruption, on dit que c'était un dispositif systémique, c'est-à-dire que il se nourrit, il est toujours en mouvement et un manquement qui va être constaté, il va nécessiter des ajustements de la carte des risques, il va nécessiter des ajustements des codes de conduite. Donc tout ça n'est jamais stabilisé et donc c'est toujours en mouvement. Donc ça c'est un point important que je souhaitais aborder, donc ce côté systémique. Et puis il y a également dans l'aspect remédiation, il y a le volet sanction, donc les comportements délictuels ou les violations du code de conduite doivent être sanctionnées disciplinairement, tout d'abord parce que c'est ce que prévoit le statut de la fonction publique. En cas de faute d'un agent public, naturellement, toute sanction doit être proportionnée à la faute commise conformément aux règles du droit disciplinaire.
Effectivement, si je comprends bien, un dispositif anticorruption cible dans la collectivité locale, c'est un dispositif conforme aux recommandations de l'AFA, tel que nous venons de le décrire, mais cela implique aussi la mise en œuvre d'autres dispositifs légaux et réglementaires, comme par exemple l'accès à un référent déontologue ou le respect des obligations déclaratives d'intérêt et de situation patrimoniale. Toutes ces normes et leur mise en œuvre au sein de la collectivité peuvent donc être rapportées et valorisées dans un dispositif anticorruption.
Oui, c'est tout à fait cela. Il y a enfin des mesures de bonne gouvernance et de bonne gestion non codifiées qui peuvent contribuer à une politique de probité. C'est ce que l'on appelle les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques ne sont pas imposées par la loi, elles ne sont pas prévues par un dispositif anticorruption. J'ai envie de dire que c'est ici l'expérience pratique des collectivités locales qui s'exprime. Citons par exemple au nombre de ces bonnes pratiques, la transparence des agendas pour les élus ou certaines hautes fonctions, la rotation obligatoire sur les postes sensibles ou à risque, la collégialité dans la prise de décision sur certains dossiers sensibles, signalés. Le signalement des dossiers, par exemple, un dossier a connu un dénouement inhabituel, on le signale au corps de contrôle. Voilà, il y a comme cela toute une série de mesures qui en pratique se révèlent propices à la probité. Leur mise en œuvre est à la discrétion des collectivités.
Merci. Si on parlait des cadeaux et invitations, quel rapport avec la probité ? Est-ce que c'est toujours problématique ? Que fait-on ?
Vous pouvez vous-même répondre à la question. Lorsque vous recevez un cadeau, êtes-vous à l'aise à l'idée d'en parler autour de vous ou au fond de vous ? Ne craignez-vous pas que l'on commence à considérer que ces cadeaux affectent votre indépendance, votre impartialité ou votre objectivité dans l'exercice de vos missions ? Pourrait-on même suspecter que l'acceptation de ces présents est facteur d'une certaine complaisance ou même le signe d'une forme de compromission ? Vous voyez ainsi qu'accepter un cadeau, une invitation, bien que cela ne constitue pas forcément une infraction ou une faute, n'est jamais anodin et peut parfois mettre mal à l'aise, voire vous compromettre. L'AFA a rédigé un guide relatif aux politiques en matière de cadeaux et invitations dans les entreprises et les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, auquel il est utile de se référer dans la mesure où les problématiques évoquées sont en partie communes. Un guide semblable est en préparation à l'attention du secteur public.
J'ai demandé à Claire Andrieux de l'AFA d'évoquer ce guide. Écoutons-la si vous le voulez bien. Madame Andrieux, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes adjointe du chef du département de l'appui aux acteurs économiques à l'Agence française anticorruption. Nous abordons aujourd'hui avec vous les atteintes à la probité, notamment certaines pratiques courantes qui peuvent être des situations à risque. Ma première question concerne les cadeaux et les invitations. Sont-ils illégaux ?
Non, pas du tout. Les cadeaux et les invitations sont des actes ordinaires, de la vie, des administrations et des affaires, et ne constituent pas du tout en tant que tels des actes de corruption. En offrant un cadeau, une personne ou une organisation peut manifester son attachement à certaines valeurs, à des traditions, ou montrer sa reconnaissance du service bien fait avec diligence. Cela peut par exemple correspondre à des cadeaux de fin d'année, des échantillons, des cadeaux de convenance ou des cadeaux protocolaires. Mais de telles libéralités ne heurtent ni la loi ni la morale. Mais elles peuvent, dans certaines circonstances, faire soupçonner l'existence d'une contrepartie dissimulée. Lorsqu'ils sont offerts ou reçus en vue de placer leurs bénéficiaires dans une situation de redevabilité et qu'ils le conduisent à trahir les intérêts dont il est chargé, ces cadeaux ou ces invitations peuvent caractériser des actes de corruption ou de trafic d'influence. Dans tous les cas, on aura beaucoup de mal à lever la suspicion.
Effectivement. Comment une organisation publique ou privée peut-elle se protéger contre les risques de corruption qui peuvent provenir des cadeaux et des invitations ?
Alors, il n'existe pas en France de réglementation générale relative à la pratique des cadeaux et des invitations, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public, sauf certains cas particuliers. Mais pour autant, les entreprises privées comme les entités publiques peuvent mettre en place leurs propres règles, et l'AFA d'ailleurs le conseille vivement. Les salariés, comme les agents publics, doivent donc rester vigilants pour être conformes aux règles fixées par leurs organisations. Par exemple, tout agent public est soumis aux principes déontologiques généraux d'intégrité, d'impartialité, de probité et d'égalité de traitement des citoyens. Alors, l'organisation, pour mettre en place sa politique cadeau-invitation, elle peut suivre certaines étapes. En premier lieu, il est utile qu'elle identifie et qu'elle évalue au travers de sa cartographie des risques de corruption, le risque de corruption que représentent pour elle les offres, les sollicitations, les acceptations de cadeaux et d'invitations, au regard notamment de ses activités, de son implantation géographique et de ses processus ou fonctions à risque. Dans une seconde étape, il est utile et efficace de formaliser des règles d'offres et d'acceptation des cadeaux et invitations, afin de maîtriser ces risques. Il est important de prendre en compte dans ces règles la détermination de la finalité du cadeau ou de l'invitation, et également sa valeur et sa fréquence. C'est en fait sur ce faisceau d'indices que le juge pénal, quand il est saisi, se fonde pour rechercher si l'offre ou l'acceptation du cadeau ou de l'invitation en cause peut caractériser un acte de corruption. À titre d'exemple, les règles suivantes peuvent être édictées par l'entité ou l'organisation. Solliciter systématiquement l'avis du supérieur hiérarchique ou du référent déontologue. Consigner la remise des cadeaux dans un registre dédié. Limiter le nombre et la valeur des cadeaux susceptibles d'être reçus par un salarié ou un agent. Fixer un seuil d'acceptabilité des cadeaux, dont le montant sera à définir par l'entité. La temporalité du cadeau est aussi importante. Par exemple, en phase de passation de marché, un acheteur public doit purement et simplement refuser toute forme de cadeau et d'invitation émanant d'une entreprise candidate. En règle générale, un cadeau doit être détaché d'un acte précis de la fonction publique. Sinon, vous voyez bien qu'il y a dans ce cas de figure un échange intéressé.
Mais quels sont les facteurs clés du succès de la mise en œuvre d'une politique cadeau et invitation, que j'appellerais comme ça?
Mais écoutez, en premier lieu, bien sûr, cette politique doit être adaptée aux risques spécifiques de l'organisation, à sa taille et à ses moyens. Il est ensuite efficace d'inscrire la politique cadeau dans le code de conduite anticorruption, pour rappeler aux salariés ou aux agents, ainsi qu'aux élus, ce qui est autorisé ou non dans l'organisation et sous quelles conditions. Il faut également former les salariés ou les agents à l'application de cette politique cadeau et invitation, avec des exemples de situations à risque qui leur sont spécifiques et qui sont adaptées à leurs activités. Par exemple, vous pouvez traiter en formation des exemples de participation à des salons, à des visites de sites de production, quand l'invitation est en lien avec l'objet de l'achat, à des invitations à des repas d'affaires. Il peut être également utile pour l'organisation de communiquer sa politique cadeau et invitation aux partenaires, à ses partenaires. Mieux informés, les partenaires comme ça s'abstiendront de faire des cadeaux déplacés. Et en dernier lieu, mais c'est un point capital, les instances dirigeantes doivent se montrer exemplaires et appliquer la politique cadeau et invitation de façon rigoureuse.
Merci Madame Andrieux pour ces conseils. J'ai une dernière interrogation à vous soumettre. Si la collectivité n'a défini aucune politique en matière de cadeaux et d'invitations, comment un agent peut-il agir avec prudence?
Oh, je crois qu'il y a des règles très simples à suivre en l'absence de politique cadeau et invitation. Lorsque vous êtes confronté à une telle proposition, dites-le à votre hiérarchie ou à votre référent déontologue. Si vous n'osez pas spontanément en parler, c'est probablement que vous considérez que quelque part il y a un problème. Il est donc d'autant plus impératif de vous en ouvrir à ces personnes pour recueillir leur avis. Ensuite, un cadeau ne saurait se présenter sous forme d'argent. Refuser systématiquement tout fonds, bon d'achat ou encore offre de réduction, ce ne sont pas des cadeaux acceptables. Refusez également tout cadeau dès lors qu'il est attendu de vous une contrepartie ou pire, une action incompatible avec la bonne exécution de votre mission. Dès lors que vous vous sentez redevable ou obligé, il y a un problème et vous devriez autant que possible faire cesser cette situation. Mais finalement, j'insiste, s'il ne fallait retenir qu'une seule règle, c'est la règle du partage de l'information. Dites-le à votre hiérarchie ou à votre référent déontologue.
Écoutez, Madame Andrieux, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes adjointe du chef du département de l'appui aux acteurs économiques à l'Agence française anticorruption. Au revoir.
Merci, au revoir.
Nous venons d'entendre Claire Andrieux à propos des cadeaux et des invitations. Avez-vous quelque chose à ajouter?
Non, son intervention est très claire. Mais puisque nos auditeurs sont majoritairement des agents publics territoriaux, je veux souligner que très concrètement, pour un agent public territorial, il y a un minimum de règles à respecter afin de se prémunir de tout risque pénal. D'ailleurs, les collectivités territoriales sont invitées à adopter une politique cadeau qui peut prévoir par ailleurs l'interdiction des cadeaux. Mais quelles peuvent être ces règles à respecter? D'une part, ne jamais accepter des fonds, des bons d'achat, des promesses de réduction. Cela ne fait pas partie des cadeaux d'usage. Nous ne sommes plus dans le registre du cadeau, c'est de la monnaie ou quasi-monnaie, donc c'est absolument interdit. Deuxième règle, ne jamais accepter quoi que ce soit en contrepartie d'un acte de sa fonction, car un cadeau doit être désintéressé, détaché de son activité, faute de quoi ce cadeau sera potentiellement considéré comme une contrepartie et l'on pourrait alors parler de corruption ou de trafic d'influence. Troisième règle, c'est la règle de la transparence. Ouvrez-vous à votre hiérarchie d'une proposition de cadeau ou d'invitation, parce qu'accepter un cadeau sans informer ses responsables manquerait de loyauté et pourrait faire naître légitimement de la défiance. Donc votre hiérarchie informée pourra au moins vous indiquer la conduite à tenir. En tout cas, vous l'aurez mise en situation de le faire. Enfin, quatrième règle, un cadeau doit rester ponctuel, ce n'est pas habituel.
Merci, ces considérations sont claires et utiles sur les cadeaux et invitations. Et clôture notre troisième émission consacrée à la protection individuelle et collective. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Madame Laurence Goutard-Chamou.
Je vous remercie et je remercie l'ensemble de nos auditeurs.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.